Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Dans cette cinquième émission sur la littérature comparée, Pierre Brunel et Florence Delay évoqueront Don Quichotte de Cervantes et la continuité littéraire de ce chef-d'œuvre. Florence Delay, membre de l'Académie française et hispaniste, traductrice de pièces du siècle d'or espagnol et romancière. Bonjour madame, merci de votre visite à Canal Académie.
Bonjour.
Pierre Brunel, bonjour. Merci bonjour. Aussi à vous de votre venue dans notre studio. Et selon l'usage, nos auditeurs en ont l'habitude maintenant, commençons, monsieur, par votre choix des illustrations musicales qui ponctueront votre causerie à tous les deux.
J'en ai apporté deux différentes, et pour rendre hommage à deux figures majeures du chant. La première, c'est un air de folie, une célébration de la folie, à propos de Don Quichotte, qui figure dans un très bel enregistrement, un album de deux disques compacts réalisé avec Montserrat Figueras qui vient malheureusement de nous quitter. Et c'est Montserrat Figueras qui chante ce très bel air de la folie qui présente la folie comme une folie sublime. Donc quelque chose qui est bien cet alliage ou cette alliance extraordinaire qu'on trouve dans le Don Quichotte de Cervantes. La seconde illustration que j'ai choisie est très émouvante aussi. Il s'agit d'un extrait musical du film réalisé par Pabst en 1933, Don Quichotte, avec dans le rôle principal un chanteur immense qui avait été aussi le créateur du Don Quichotte de Massenet en 1910, la basse russe Fédor Chaliapine. Et Jacques Ibert a composé pour ce film quatre chansons de Don Quichotte, la quatrième est La mort de Don Quichotte. Et nous avons la chance d'avoir encore à notre disposition l'enregistrement de cette romance de Don Quichotte, de cette mort de Don Quichotte par Chaliapine lui-même.
Dans nos précédentes émissions comparatistes, Ulysse nous a conduit à Kundera, Ovid nous avait conduit à Kafka, et aujourd'hui Don Quichotte rassemble Ulysse, Kafka, Kundera, et je pense au livre de Marthe Robert, L'Ancien et le Nouveau, et aussi à celui de Kundera, Le Rideau, dans lequel l'auteur parle de Rabelais, mais aussi un peu de Cervantes et de son héros. Mais bien souvent, notre premier contact avec le chevalier errant, nous l'avons eu enfant, sous forme d'extraits, d'images. Nos premières lectures de Don Quichotte nous ont permis d'être enchantés. Et Florence Delay, Don Quichotte est votre héros préféré, vous l'aviez écrit lors d'un colloque. C'est un souvenir d'enfance qui ne vous a plus quitté, vous avez déjà eu les images et puis le texte. Pourquoi en avez-vous été si enchantée ?
Enchantée parce que, à cause de la surprise immense des images de Gustave Doré. Parce qu'en fait, j'ai découvert Don Quichotte dans deux grands volumes qui dataient de l'enfance de mon père, dans la traduction Louis Viardot, illustrée par Gustave Doré. Et d'une certaine façon, j'ai vu Don Quichotte avant de le lire.
Les images.
Et ensuite, les premiers ont été des accompagnements de lecture par ma mère, des chapitres correspondant aux images. Ça a été le premier contact. Et alors, la première fois que je l'ai lu, cette fois dans la version César Houdin, première partie, François Drosset, revue par Cassou, et puis ensuite dans la version reprise par Canavaggio, et maintenant dans la dernière version donnée par Jean-Raymond Fandeau, en fait, le plaisir est toujours le même et renouvelé. C'est pour ça que je défends toutes les traductions.
Oui, toutes les traductions.
Même si ma préférée reste la première que j'ai lue.
Et vous, Pierre Brunel, votre première lecture de Don Quichotte ?
Alors, ma première lecture a été une lecture d'enfant, d'extrait, donc très modeste. Et c'est au contraire tardivement que j'ai véritablement lu Don Quichotte. Dans la fin de ma carrière, j'ai eu la chance... pendant 4 années successives, de consacrer des cours à ces volumes et à cette question difficile. Mais ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que la découverte que Florence Delay, enfant, a faite de Don Quichotte, m'a énormément frappé. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je suis, comme vous le savez, un amoureux de Rimbaud. Et au cours des vacances d'été 1870, juste après la déclaration de guerre, Rimbaud avait l'autorisation de son professeur de français pour aller dans sa chambre et lire les livres qui s'y trouvaient. Il a adressé une lettre à ce professeur de français, Georges Isambard, en lui disant « Voilà, j'ai tout lu, j'avais l'impression d'avoir tout lu, je me sentais complètement vide, il n'y avait plus rien, j'étais comme mort. Tout à coup, quelque chose m'a paru, c'était Don Quichotte. Et si vous permettez, je lis ici. Le Don Quichotte m'a paru. Hier, j'ai passé 2 heures durant la revue des bois de Doré. Maintenant, je n'ai plus rien. » Donc, Rimbaud a découvert Don Quichotte dans la même édition exactement que Florence Delay, et même la même réédition, car la traduction Viardot illustrée par Gustave Doré était de 63, rééditée en 69. Et ce sont les volumes de 69 que vous avez trouvés chez vos parents et que vous possédez toujours, je crois.
Oui.
Comme vous, il n'a fait d'abord que regarder les illustrations, et c'est plus tard seulement qu'il a lu le texte. Le rapprochement m'a absolument sidéré.
Un peu intimidant, mais enfin. J'aimerais revenir un instant sur le beaucoup de traductions qui, à mon avis, sont toutes heureuses et correspondent à divers moments du jour. Un de mes écrivains préférés, Jorge Luis Borges, Borges pour les Français, a, dans son essai d'autobiographie, a raconté comment il n'était jamais au fond sorti de la bibliothèque de son père. Et il adorait son père. Et c'est là qu'il a lu ses premiers livres et il se souvient très bien avoir lu Don Quichotte là. Mais le problème, c'est que tous les livres de la bibliothèque de son père étaient en anglais. Il a donc lu, à 7-8 ans, Don Quichotte en anglais. Il a écrit immédiatement son premier texte, La viscera fatale, La visière fatale. Mais il a dit aussi, il a ajouté, que quand il avait découvert Don Quichotte dans la langue originale, ça lui a paru une mauvaise traduction. Alors là, évidemment, on peut trouver l'humour de Borges, mais pour dire que Don Quichotte est tellement plus fort que sa traduction qui peut aller dans toutes les langues.
Et ce qui est tout à fait remarquable, et pour les comparatistes, c'est que les plus grands traducteurs et les plus grands écrivains se sont attaqués à Don Quichotte. Moi, j'ai la chance d'avoir la traduction allemande par Tieck, un des principaux romantiques allemands, et c'est ma seule façon d'ailleurs de voir l'ensemble des dessins de Gustave Doré, car ils ont été intégralement repris dans cette édition. Le pont se fait aisément des traductions anciennes aux traductions récentes, puisque Jean Cannavaggio avait réédité la plus ancienne traduction, c'est-à-dire celle de César Houdin et celle de François de Rosset, presque contemporaine des deux parties de Don Quichotte, dans la révision de Jean Cassou en 1949, la révision de Jean Cassou. Et Jean Cannavaggio a fait lui-même une traduction qui est la nouvelle
dans la Pléiade.
Et j'aimerais dire aussi, parce que c'est un livre fondamental quand on cherche quel a été le devenir du livre de Cervantes, Jean Cannavaggio a publié aux éditions Fayard, à date récente, un livre intitulé « Don Quichotte du livre au mythe, 4 siècles ». Sur 4 siècles, c'est l'histoire de Don Quichotte, des avatars de Don Quichotte que nous pouvons suivre.
Votre première lecture d'enfance, disiez-vous, Florence Delay, mais Don Quichotte est parfois considéré aussi comme le père des romans. Qu'en pensez-vous, madame? Et que pensez-vous du rideau de Kundera? Qu'est-ce que le rideau, en fait, pour vous et Kundera?
Je me souviens avoir été choquée par l'image du rideau. Parce qu'au fond, il dit que les gens du Moyen-Âge vivaient dans un monde de légendes, devant eux comme un rideau, et que d'une certaine façon, Cervantes, en envoyant Don Quichotte en voyage, avait déchiré ce rideau des superstitions, des légendes, etc. Et je trouve cette image totalement anachronique parce que moi qui aime beaucoup le Moyen-Âge, je l'ai toujours vu vivre à côté des mystères et croisant les mystères et la réalité, peuplant le monde de divinité aussi et de Dieu et de saints, sans qu'il y ait cette image de séparation que nous donne Kundera.
Oui, l'entrelac est absolument réel à ce moment-là.
Et il me semble réel dans Cervantes.
Et que pensez-vous, Pierre Brunel, de
Alors,
cette façon de voir?
Alors, dans un rideau, Kundera parle relativement peu de Cervantes et de Don Quichotte. Il parle davantage de Rabelais. L'auteur du premier roman, pour lui, c'est Rabelais plus que Cervantes. Mais il y a quelque chose qui l'a frappé. Il y a une belle page, je trouve, tout de même, à ce sujet. C'est le fait que Don Quichotte soit sans progéniture. On sait très peu de son ascendance et il n'y a rien en fait de descendance. Et pour Kundera, ce serait le point de départ d'une sorte de nouvelle lignée romanesque. Voilà.
Donc, c'est à la base un père des romans, bien qu'il y ait cette espèce de décloisonnement tout le temps fait par Cervantes, parce que qui est le vrai auteur, l'auteur derrière lequel il se dissimule, qui est Cid Ahmed Ben Jelly? Comment peut-on dire que c'est vraiment le premier roman?
Alors, la question des auteurs est une question très difficile sur laquelle peut-être nous allons revenir tous les deux ensemble dans un instant. Pour ce qui est de la question que vous posez, premier roman, c'est quelque chose sur quoi beaucoup de modernes s'accordent. J'ai trouvé cette affirmation très forte, par exemple, dans le livre de Lukács, La théorie du roman, en 1920. Le premier roman, parce que c'est une rupture avec ces livres de chevalerie, qui ne sont pas des romans de chevalerie, qui ne sont pas des romans proprement parlés, qui ont tourné la tête, d'une certaine manière, à Don Quichotte. Et le livre s'organise à partir de là.
Ce n'est pas que une parodie.
C'est discutable et...
C'est-à-dire que vous voyez en moi quelqu'un qui a une grande passion pour les romans de chevalerie.
Et pour le Graal.
Et pour le Graal. Et il m'est difficile de ne pas penser qu'il y a des dons romanesques infinis chez Chrétien de Troyes, enfin de poésie. Alors, est-ce que le roman de chevalerie tient beaucoup du conte? Est-ce que le conte, bien sûr, peut-être? Mais si je me souviens, par exemple, j'avais été frappée quand j'appartenais au comité de lecture de chez Gallimard par un leitmotiv dans la bouche de Pascal Quignard qui était « Qu'est-ce que le roman ?» C'est « scène et personnage ». Pour lui, la définition d'un roman, c'était « scène et personnage ». Or ça, les scènes et personnages, on les a dans tous les romans de chevalerie du Moyen-Âge. Je veux dire, le baiser que Lancelot donne à la reine Guenièvre en présence de Galeot qui le lui demande est reproduit dans tous les pays, en miniature, etc. C'est une scène avec des personnages. Et là, quand même... Alors, évidemment, il n'y a pas l'intelligence merveilleuse de Cervantes qui va faire de tout cela du conte. Mais on ne peut pas quand même délaisser toute cette matière.
D'ailleurs, Don Quichotte n'existerait pas sans cette matière. Oui. Puisque Don Quichotte lui-même veut imiter tous ses héros. Seulement, c'est la fin qui apporte une rupture. Car oui, il a l'air de renoncer à tout cela pour vivre ses derniers instants modestement dans sa chambre.
On va peut-être pas parler de la mort de Don Quichotte.
Non, on y viendra forcément.
Mais la fin, c'est deux pages.
Fin, c'est deux pages.
Oui, mais quelle page? Quelle page?
N'en parlons pas.
Pour ce qui est de la question des auteurs que vous avez évoquée tout à l'heure, alors c'est très compliqué parce que jamais Cervantes ne se présente comme l'auteur du livre. Il se présenterait même comme le premier lecteur.
Mais voilà. C'est extraordinaire. Oui, oui. Quand on découvre qu'en fait, au chapitre 9, il est en plein combat.
Après la rupture.
Et brusquement, il s'aperçoit qu'il n'y a pas la suite. Et c'est là où on se dit qu'il est dans notre position, il est en train de lire. Et il n'aura de cesse d'aller chercher la suite qui, hélas, est en arabe. D'où le besoin d'un traducteur. C'est pour ça que ce livre est quand même étonnamment marié au sort de la traduction.
Alors, il y a deux phénomènes étranges. Le premier, c'est que dans le chapitre 9, autant que je me souviens, il y a celui qui suit immédiatement les moulins à vent et
le combat
avec le Biscayen. Celui qui raconte, explique comment il a découvert ce livre de Cid Ahmed Ben Jelly, l'auteur
sur
arabe,
le
marché de Tolède. Et à partir de là, le récit qui s'engage est celui qui est censé avoir été écrit par cet auteur arabe et donc traduit de cet auteur arabe. Dans la seconde partie, immédiatement, c'est présenté comme le récit de Sid Ahmed Ben Engeli.
Mais qui raconte Sid Ahmed?
Il est encore fait allusion à Sid Ahmed Ben Engeli dans les toutes dernières pages, cette mort de Don Quichotte à laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Mais dans la seconde partie, il y a un élément nouveau, c'est que entre la publication de la première partie, 1605, et la publication de la deuxième partie, 1615, il y a eu quelqu'un que l'auteur ou celui qui parle considère comme un imposteur.
Un plagiaire.
Un apocryphe,
en tout cas,
que nous connaissons, avec Yaneda. Le texte est connu, le texte a été traduit en français. Il y en a une édition récente qui a été faite par un jeune hispaniste que je connais, David Alvarez. Et ça complique encore la question des
auteurs. Que tout ça, c'est encore une construction.
Oui, mais alors, dans le second cas, une construction qui n'est pas imaginaire, puisque cet apocryphe d'Avelia Leda, il existe véritablement. Oui. On a retrouvé le texte.
Ce qui est prodigieux, c'est la façon dont Cervantes s'empare de l'apocryphe et en fait un élément fondamental de sa deuxième partie. Et c'est là, en ce sens, que c'est le premier des romans. Parce qu'il le fait avec un humour, une grâce, une insistance. Mais j'aimerais dire aussi que dans le jeu de celui qui rapporte le livre de Sid Ahmed Ben Engeli, dans ce jeu-là, J.E., il y a beaucoup, beaucoup de traits appartenant en propre à Cervantes. Par exemple, quand il découvre le jeune Morisque qui va lui traduire le texte, il dit...
À Tolède, moi
qui ai toujours été affectionné au vieux papier, qui lit tout, etc. On sent que c'est lui. Et de même, à un moment donné, à propos de théâtre, lui qui dit, quand Don Quichotte apprend la venue de Maître Pierre et qu'il dit « Oh, moi, depuis l'enfance, tout petit, j'ai aimé la carantula, c'est-à-dire les masques, les planches, et mes yeux couraient derrière mes yeux. Je n'avais Dieu que pour les comédiens. » Ça, c'est vraiment lui, parce que la grande affaire de Cervantes, ça a été son théâtre. Et c'est ça qui est un des mystères de plus.
Oui, c'est vrai.
Puisque son théâtre n'a jamais marché.
C'est un des mystères de plus, parce que Cervantes, c'est un mystère, et Don Quichotte aussi pour vous.
Ah oui. C'est un mystère parce que, peut-être à cause du bonheur qu'on y prend, à chaque lecture, il y a comme un nouveau bonheur. Ce livre richissime, à ce moment-là, au début du XVIIe, d'un homme à la vie dure, à la vie, des années de bagne à Alger, un échec total de son théâtre alors qu'il n'aimait que cela, la misère, la pauvreté, problème. Vie dure, pas une culture, enfin une culture autodidacte, mais ayant quand même tout lu. Il y a quelque chose de très pur et de très bouleversant dans l'aventure Cervantes-Don Quichotte.
Et peut-être aussi une évolution vers la piété,
oui,
qui peut d'ailleurs expliquer ce à quoi nous allons inévitablement en venir, c'est-à-dire à la fin de Don Quichotte.
Oui, parce qu'il a fait partie des ternaires de Saint-François.
Oui, exactement, exactement.
Parce que quand même, Dieu est formidablement absent de Don Quichotte. Il est vraiment absent. On se moque du curé.
En même temps que du barbier.
En même temps que du barbier.
Ou de l'homme de loi, tout
ou
pareil.
Ou de l'homme de loi. Tout le monde en a pour son grade. Alors, cette conversion finale, il appartenait à l'ordre des ternaires.
Et oui. C'est là quand même qu'on peut se demander si dans ces dernières pages, il n'y a pas quelque chose qui est dû à cette évolution.
Parce qu'il a d'abord été juste des vœux momentanés, puis ensuite, il a fait ses vœux définitifs. Donc il y a cette chose-là qui est évidemment importante, mais j'avais entendu dire que parfois Cervantes avait regretté de faire cette mort aussi pieuse, parce qu'au dernier moment, il s'était dit, mais peut-être que non, il ne fallait pas, parce que Cervantes ne sait jamais, et c'est ça qui est bien, entre sagesse et folie, parlons-en de son héros, entre sagesse et folie, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Je laisse à Florence Delay le soin de répondre à cette très délicate question.
Évidemment, un des aspects captivants, c'est cet entre-là, entre le bon jugement et la folie. Mais alors, qu'appelle-t-on folie? Justement, dans...
Erasme est passé par là. C'est peut-être cette forme de folie-là qui n'est la plus grande des raisons.
Je n'en sais rien. Dans votre beau bouquin, Pierre Brunel, vous passez par l'hallucination. Vous évoquez, et même vous le rapprochez Rimbaud, de forme d'hallucination. Et c'est curieux parce que ce thème hante Cervantes, le thème du bon jugement entrelacé à la folie. Parce que on va trouver le barbier à la fin qui raconte une histoire comme ça, qui se passe à Séville. On va voir dans une nouvelle exemplaire le licencié de Vers qui est un homme remarquable, au jugement magnifique. Simplement, il a un point délicat, il se croit en verre. Donc, il a peur de se casser. Donc, chaque fois, les folies Cervantes sont sur un seul point. Et dans une conscience pleine de bonté, de morale et de bon jugement. Alors ça, c'est vraiment...
J'ai trouvé, en relisant la théorie du roman de Lukács ces jours-ci, une expression qui m'a beaucoup frappé, qui est toute simple d'ailleurs. C'est un mélange de sublime et de folie. Et je crois, moi, à ce mélange, et je crois à ce mélange dans le cas qu'on ne peut pas passer sous silence, de son amour pour Dulcinée. Dulcinée est un personnage imaginaire et même pas tout à fait imaginaire, c'est la transformation d'une villageoise qu'il a connue étant plus jeune. Donc son amour pour Dulcinée a quelque chose de fou, et en même temps, c'est un idéal amoureux qui a quelque chose de sublime.
Et tout est ainsi, parce que, oui, vous avez raison, le problème est qu'il applique le code de l'amour courtois.
Oui, c'est ça.
À Dulcinée, c'est-à-dire les modèles.
C'était le roman de chevalerie qui sont là.
Oui, les modèles sont ce qu'il y a de plus... Enfin, on n'a jamais mieux... Enfin, les troubadours ont créé la poésie, l'amour, la poésie, ça c'est sûr. Et il applique à Dulcinée...
Oui, le long amour qui est lointain.
L'amour de loin, ou le service à la dame. Et dans les prouesses, eh bien, ces modèles sont très hauts parce que la chevalerie, le roi, enfin, ce qui était demandé aux chevaliers dans la vie réelle ou dans la fiction, c'était quand même ce qu'il y a de plus beau au monde. Aujourd'hui, aller sauver la veuve et l'orphelin, défendre les humiliés, les offensés, nourrir les pauvres, c'est un modèle de vie que doit appliquer le chevalier. Et ce qui est un peu poignant chez Cervantes et qui fait rire en même temps, c'est que tout ça soit transformé en folie. Tout ce qui est le meilleur au monde. Alors, le lecteur, évidemment, est toujours entre le rire et les larmes. Le plus souvent, le sourire aussi. Mais voilà, donc, cet idéal de la chevalerie, n'oubliez pas quand même qu'au soir de la bataille de Marignan, en 1515, Bayard a armé le jeune François Ier chevalier, comme modèle de ce qu'il y avait de mieux au monde.
Seulement là, c'est un hôtelier qui arme donc les chevaliers.
Et oui, tout devient dérisoire.
Et puis qu'on est un siècle après, donc il y avait un recul qui peut rendre dérisoire.
Et alors il y a quelque chose qui vient troubler le jeu, d'un bout à l'autre des deux parties, c'est la question des enchanteurs et des enchantements. Le combat contre les moulins à vent, c'est un combat contre des moulins à vent que Don Quichotte prend pour des géants, mais quand il est bien obligé de voir que ce sont des moulins à vent, il croit que ce sont les enchanteurs, en particulier le très méchant enchanteur Freston, qui a transformé les géants en moulins à vent.
C'est comme Dulcinée.
Voilà, de la même manière, dans la seconde partie, quand il va se trouver nez à nez avec une villageoise et qu'on lui dit que c'est Dulcinée, il croit que ce sont les enchanteurs.
C'est encore un mauvais coup des enchanteurs.
Qui ont transformé Dulcinée en villageoise. Il renverse le processus, en quelque
sorte. C'est ça. Et est-ce qu'il n'a pas raison ? Par exemple, est-ce que lorsqu'on est battu, roulé, escroqué, à la rue, il ne vaudrait pas mieux se dire qu'on est poursuivi par de mauvais enchanteurs que par des hommes réels ?
Ce serait une manière de se consoler, en tout cas, oui. Mais celui qui est berné dans l'affaire, c'est Sancho, ça n'est pas Don Quichotte.
Quoi qu'il ait une place très affective, Sancho, et c'est ça qui est touchant aussi. C'est que ce personnage, ce villageois, aime énormément son maître, car il aime énormément l'enchantement que l'Hidalgo offre à sa vie, à Sancho.
Et il lui est fidèle jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Et là aussi, chez Sancho, il y a un mélange de bon sens et de naïveté, de bêtises, mais il y a aussi de très bonnes choses chez Sancho. C'est-à-dire, vraiment, on est dans un monde pas du tout noir et blanc, où toutes les couleurs de la société... Parce que tout le monde parle, tout le monde a son tour de parole. Et toute la vie réelle de l'Espagne d'alors, que ce soit les Morisques, le Morisque expulsé, que ce soit celui qui a été captif dans les bagnes, etc. Toute une réalité qui est vécue. Et là, en plus, alors ça donne à l'intérieur du roman une histoire vraie, une histoire où on sent que Cervantes écoute toutes les voix parler. Et là aussi, c'est une richesse immense.
Et Sancho lui est absolument nécessaire. Vous vous rappelez que l'ensemble est construit sur trois sorties successives. Don Quichotte sort trois fois de son
la
village.
Première sans son
et la première
et
est sans son chaud. Oui. Et il y a quelqu'un qui lui donne le conseil, la prochaine fois, ayez un écuyer et un bissac avec de la nourriture dedans. Et c'est le rôle de Sancho, hein, parce que Don Quichotte ne peut pas continuer sans manger ni sans boire.
Quand j'étais petite, moi, c'était le bissac de Sancho qui me fascinait. Parce que il me semblait, j'avais toujours faim, quand il sortait son pain, son fromage et ses oignons, oh mon Dieu, je me serais mis à table avec eux, j'aurais partagé. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais, j'allais à la cuisine manger.
Et en même temps, il y a des mésaventures du bissac, parce qu'il est dérobé à un certain affreux. Moment.
Ça, le vol du bissac est un des moments les plus cruels. Ah oui, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé. La cruauté.
La cruauté,
elle
oui.
existe.
Oui.
Elle existe.
Si tout
on va parler de la mort de Don Quichotte, comme vous disiez, madame, n'est que deux pages, mais c'est le désenchantement total, en tout cas pour des âmes d'enfants et même pour des âmes d'adultes. On aurait tellement aimé qu'il trouve quand même autre chose que de plus croire en tout ce à quoi il a cru pendant si longtemps. Il fait plus semblant.
Alors c'est très étrange parce que Dieu lui envoie un sommeil. Et c'est après ce sommeil qui dure 6 heures qu'il se réveille et que brusquement il dit « Tout ce que j'ai vécu était mensonge ». Ça passe par un sommeil. Et ça m'a toujours fasciné, ça. C'est venu dans son sommeil. Le sommeil qui est bien sûr le serviteur de la mort dans l'acte sacramentel et dans tout le théâtre liturgique. Donc c'est l'approche de la mort qui sans doute ouvre les yeux de Don Quichotte. Et pour nous qui avons cru à tout, enfin cru, appris à l'aimer comme Cervantes d'ailleurs à travers sa folie, on a appris à l'aimer comme
Sancho,
ça,
pense.
Comme Sancho finalement. Et là, avec un renversement inouï, Sancho, qui ne peut pas supporter, comme nous, le lecteur, ce renversement, lui dit mais tout était vrai. Tout était vrai. C'est maintenant que vous vous trompez. Les enchanteurs existaient. Vous avez bien aimé Madame Dulcinée du Toboso. Et ça, ce renversement, je crois que c'est une des plus belles fins de livre.
Est-ce que ce coup d'arrêt, finalement, Cervantes ne l'a pas donné lui-même avec ce dernier chapitre qui nous étonne, qui parfois qui nous déçoit? Il avait besoin de quelque chose de plus apaisé vers la fin. Est-ce que vous me permettez d'introduire une citation à oui. propos de la mort de Don Quichotte? Je l'emprunte à un livre de Thomas Mann qui raconte son voyage d'Europe aux États-Unis, un livre des années 30. Et cette fin de Don Quichotte le déçoit d'une certaine manière. Je lis quelques lignes là, si vous voulez bien. La fin du Don Quichotte m'a tout l'air de manquer plutôt de vigueur. La mort du héros fait ici l'effet d'intervenir surtout comme une précaution prise pour empêcher une nouvelle exploitation littéraire, et cela lui donne précisément quelque chose de littéraire et de factice qui exclut toute émotion. C'est-à-dire au fond une méfiance à l'égard des autres auteurs, peut-être de ceux-ci d'Hamet, peut-être...
Désaccord total, parce que il me semble que justement cette mort est volontaire, elle est prévue par Cervantes, je crois, dès le début, et c'est un geste d'écrivain.
Oui.
Pour moi, si vous voulez...
C'est la romancière qui parle, là.
Il me semble, là, on voit bien que Cervantes est très très conscient de ce qu'il fait.
Et c'est ce qui expliquerait, à ce moment-là, ce très curieux morceau, qui est le moment où on s'adresse à la plume de l'écrivain.
Ça, c'est un morceau incroyablement subtil, plus subtil que tout le reste.
Ah, c'est très juste.
Cela n'a pas empêché les écrivains de reprendre le sujet, le personnage. Il y a eu des Don Quichotte, je ne dirais pas à l'infini, après Cervantes, mais il y en a eu. Et c'est très difficile de reprendre un tel sujet après Don Quichotte.
Mais, souvenez-vous, ce mouvement, l'hiver dernier, où il y a 2 hivers... d'hommes et de femmes qui avaient dressé des tentes
les
pour
les enfants de Don Quichotte.
Ça s'appelait les enfants
oui,
de Don Quichotte.
Oui, absolument. Je me rappelle très bien cela. Et ça avait occupé les...
Ce nom n'avait pas été pris pour rien.
Mais le nom de Don Quichotte n'est jamais pris pour rien. Parce qu'on sait bien que c'est toute la face de l'homme qui mélange la sagesse, l'intelligence, la finesse, la poésie, mais qui, à la fin, retombe sur terre et va croire en Dieu.
Et c'est d'ailleurs ce qui est étrange chez ce personnage qu'on pourrait considérer comme extravagant et qui, en même temps, est très profondément humain.
Oui. Oui, et généreux, toujours prêt à courir, à défendre, au fond, des causes qui méritent de l'être. Ah non, c'est mystérieux.
Oui, c'est un livre mystérieux pour vous deux aussi.
Oui. Et moi, je pense qu'il a été mystérieux pour beaucoup d'écrivains, d'artistes, de cinéastes. Et là, je voudrais faire une allusion peut-être à cela. L'histoire de Don Quichotte au cinéma est complexe parce que les réalisateurs ne sont pas toujours allés au bout de leur projet. On a parlé de Pabst tout à l'heure, il est allé au bout de son projet. Il y a un très beau film russe.
De Kosinchev.
Voilà, qui est allé aussi au bout de son projet.
Magnifique.
En revanche, Orson Welles s'y est pris à plusieurs reprises et n'est jamais allé au bout de son projet. Il a fallu un continuateur. Et à date relativement récente, nous avons eu chez nous un film qui a fini par s'appeler, je crois, Perdu dans la Manche ou quelque chose comme ça. Le réalisateur n'a pas pu aller au bout de son projet. Comme si
c'était
il y avait
impossible.
Quelque chose d'inachevable que Cervantes a pourtant voulu achever à sa manière avec cette mort de Don Quichotte.
Très juste.
Alors en conclusion, toutes les deux, Florence Delay.
Écoutez, pour conclure, il faut recommencer.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne saurais souhaiter à nos auditeurs plus beau cadeau de nouvelle année que de lire, relire, dans les traductions qu'ils veulent, ce roman-là.
Pierre Brunel.
Oui, je ferai le même vœu. Toutes ces traductions ayant leur marque propre, leur qualité propre, depuis la plus ancienne qui a le charme des archaïsmes de langue jusqu'à la plus récente qui est peut-être la plus inventive de toutes, en passant par Viardot, bien sûr, qui a marqué profondément le 19e siècle et encore le début du 20e siècle. Mais je pense aussi que chacun d'entre nous doit réfléchir au sujet de ce personnage qui n'est pas une caricature, qui n'est pas un personnage pour les tréteaux de Maître Pierre, mais qui est quelqu'un qui nous touche, quelqu'un qui, quelque part, nous ressemble, quelqu'un qui, d'une certaine manière, nous met en garde aussi contre certains dangers de l'existence ou contre certains dangers qui existent en nous-mêmes, avec des appels au secours, avec le besoin d'autrui, avec un idéalisme qui est à la fois nécessaire et décevant, mais c'est peut-être le nécessaire qui l'emporte.
Bravo, parce que pour toute cette imagination de Don Quichotte, vous avez su trouver en fait l'idéalisme nécessaire. Merci à vous deux.